France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, la Grande Loge de France. Bonjour à toutes et à tous, notre émission de ce jour sera consacrée à un événement pour notre obédience. Dans quelques jours, ouvrira le nouveau musée de la Grande Loge de France. Après une année de travaux intensifs, l'hôtel de la Grande Loge de France, à Paris, va accueillir un nouvel espace pour nos collections et proposer une nouvelle expérience de visite. Vous le savez, les francs-maçons sont très attachés à la conservation et au partage de la tradition maçonnique qui font partie intégrante de l'identité des frères de la Grande Loge de France. Ce nouveau musée devrait en être le témoin. Pour nous en parler de ce nouveau musée, initié sous l'impulsion du grand maître Thierry Zaveroni, nous recevons les deux colonnes de ce projet, Max Aubrin, président délégué au musée, aux archives et à la bibliothèque de la Grande Loge de France, et Marcella Louvel, conservatrice de l'Institut National du Patrimoine et responsable du musée. Chère Marcella Louvel, cher Max Aubrin, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Clément.
Alors je le disais, un nouveau musée, des travaux importants, une inauguration très attendue. Quelle est la vision et l'ambition derrière la réouverture de ce musée de la Grande Loge de France, Max Aubrin?
Alors pour bien comprendre l'œuvre qui est en train de se réaliser à la Grande Loge, il faut bien évoquer les trois éléments qui constituent le musée, archives, bibliothèque, qu'on appelle d'un acronyme MAB. Parce que c'est une originalité qu'on retrouve pas dans tous les musées. En revanche, qui était connue d'un muséion, la fameuse grande bibliothèque qui existait à l'époque antique et qui réunissait une bibliothèque, des scientifiques, un réfectoire, et c'était sous l'égide, évidemment, des muses. C'est ce qui a donné le mot musée, muséon, mais c'est la caractéristique qu'on veut donner à ce genre d'écosystème, on appellerait ça aujourd'hui comme ça, scientifique et culturel, que le grand maître a souhaité mettre en place. 8 rue Louis Puteaux, qui est évidemment l'endroit de l'obédience, mais qui aujourd'hui va se partager avec une bibliothèque, des archives, un musée, une maison d'édition et une librairie.
Alors Marcella Louvel, vous êtes la responsable de ce musée et de ce nouveau musée. Quelle est la politique culturelle qui est derrière cette réouverture?
Donc la politique culturelle portée pour notre présidente de l'association et aussi grand maître de la Grande Loge de France, monsieur Thierry Zaveroni, repose sur une vision centrée sur l'humain. Ça va être vraiment un point central pour la présentation des objets, pour les récits culturels qu'on prépare. Et je dirais que c'est surtout l'effet, la grande mission, c'est de valoriser cet héritage unique pour le partager des vases et aussi l'inscrire dans un dialogue vivant avec la société contemporaine.
Et alors, nous l'avons dit, il y a eu de longs mois de travaux et nous sommes, je crois, dans la dernière ligne droite. Je crois que tous les ouvriers s'activent nuit et jour pour finir à temps. Chère Marcella, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez un peu conçu le futur parcours de visite de ce nouveau musée de la Grande Loge de France?
Bon, il faudra dire que c'était un chantier qui en a commencé, ça fait plus d'un an. C'est un chantier global qui a compris plus de 500 mètres carrés aujourd'hui de transformation. Donc, il y a un travail sur l'accueil du site qui va être très importante, et aussi la création d'une boutique et librairie, l'insertion des deux grands temples de la Grande Loge de France, donc les temples Pierre Brossolette et Franklin Roosevelt, et aussi la rénovation complète de notre ancienne salle du patrimoine, qui aujourd'hui va avoir vraiment une métamorphose liée à la présentation de chaque fond de la collection, d'une façon très focalisée sur les multimédias, avec une atmosphère immersive et en mettant en valeur la beauté et toute la transmission qui vont porter ces objets, qui sont des objets phares et emblématiques de cette collection d'environ 4000 objets de la Grande Loge de France.
Alors, j'ai eu la chance de pouvoir visiter un peu en avant-première ce nouvel espace muséal. Je crois que vous avez pensé cette visite en trois espaces, trois étapes.
Tout à fait.
Et je crois dans une dimension même symbolique dans la visite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Bien sûr, en fait, on prépare une visite qui va avoir plusieurs dimensions. Déjà, c'est une visite dynamique. On va commencer pour présenter les fonds plus emblématiques des musées de Beaux-Arts en général, comme les fonds de peinture et des arts graphiques. Donc, on va mettre en valeur un espace magnifique de l'hôtel de la Galoche de France, bâtiment qui date du 19e siècle. Donc, on va vouloir commencer par les grands escaliers, avec la mise en valeur de toute la construction originale du bâtiment, un dialogue avec plusieurs éléments contemporains, avec aussi une nouvelle peinture qui va donner aussi beaucoup de...
De cachet.
Voilà, merci Max. Et en fait, on va moderniser un espace, mais on va bien sûr garder cet esprit original du bâtiment historique qui va raconter beaucoup d'histoires. Et on va visiter cet espace en train de faire cette ascension pour l'escalier, qui va parler aussi de la partie spirituelle très importante pour l'obédience, en arrivant à un espace mémorial et en présentant déjà toute l'iconographie de la franc-maçonnerie à partir de l'ensemble d'art graphique.
Et vous évoquez un espace mémoriel, est-ce que vous pouvez aussi nous en dire quelques mots? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans cet espace?
On va voir un fond de sculpture très importante qui va être lié en dialogue à une plaque commémorative aux francs-maçons de la Résistance. C'est surtout très important pour nous, cet espace mémoriel, parce qu'on va mettre en valeur aussi les dialogues entre les idéaux de la franc-maçonnerie et les idéaux de la République. Donc, c'est un espace central tout au début, déjà, de la visite, qui va nous amener à la deuxième salle, où il y aura plutôt un espace plus lié à la contemporanité. Ça va être la salle du savoir-faire. On va présenter les fonds du musée de la franc-maçonnerie, les fonds textiles, les fonds de métal, et les fonds de numismatique.
Les objets pour un franc-maçon, c'est toujours une histoire des mains. Parce que le geste, c'est le verbe du corps. Et quelque part, l'artisan fabrique, le franc-maçon utilise et quelque part abandonne. C'est toute cette histoire de ces objets qui évoque plus une spiritualité qu'une matérialité.
Merci Max Aubrin pour cette précision. Alors un musée c'est aussi une collection. Quels sont les objets ou documents les plus emblématiques que le public pourra découvrir dans ce nouveau musée et peut-être même des pièces qu'on n'a jamais vues jusqu'à présent?
Max Aubrin. Des documents rares. C'est un registre de délibération du scrutin pour l'élection des maîtres vénérables de la loge de Saint-Germain à réhabilitation de la régulière loge de Saint-Jean de Jérusalem, dite de Saint-Germain de Paris. C'est un élément rare et qui va s'inscrire dans une démonstration, non pas pour retrouver les sources de la maçonnerie, de la Grande Loge de France, mais simplement pour évoquer les sources de la maçonnerie tout court.
Marcella Louvel, est-ce que vous voulez nous dire aussi quelques mots sur cette collection qu'on va pouvoir découvrir ou redécouvrir? Quelles sont les pièces qu'on va pouvoir voir?
Alors, de base, il faudra dire que l'exposition présentera avant tout la collection permanente d'UMAP. Donc, on va mettre en lumière les grands classiques des collections de la franc-maçonnerie de l'obédience. Donc, les fonds textiles comme les sautoirs, les tabliers qui vont nous parler de l'évolution du parcours maçonnique, on va dire, des membres. Et aussi, toute la partie archive historique et constitutive de l'obédience, ainsi que des pièces emblématiques comme les porcelaines de Meissen ou les faïences de Nevers. Des fonds métalliques comme une magnifique acquisition récente qu'on a fait, des plus de 80 épées, des loges militaires, des épées aussi, des belles qualités, des belles manufactures. C'est une acquisition d'un frère qui était restaurateur de base. Donc c'est vraiment un ensemble très beau qu'on va mettre à lumière. Et aussi des objets qui sont liés bien sûr à des figures historiques telles que l'épée par exemple de Philippe Égalité. Et aussi les portraits de Combe de Clermont pour raconter un peu l'histoire aussi de la franc-maçonnerie.
Oui, alors tous ces objets vont être aussi accompagnés par des objets de ponton. Alors, c'est une terminologie un peu liée aux antiquaires, mais elle a sa signification, c'est-à-dire que ce sont des objets fabriqués par d'autres, pas commandés systématiquement, et qui évoquent la maçonnerie, et qui sont donc des objets carrément de culture, non pas directement maçonnique, mais inspirés par des formes, par des dessins de la maçonnerie, avec toute cette connotation secrète, sous le manteau, et pourtant fabriqués par des prisonniers.
Alors vous l'avez évoqué, c'est un nouvel espace qui s'ouvre au sein de l'hôtel de la Grande Loge de France pour accueillir ce nouveau musée. Quels ont été les plus grands défis rencontrés lors de la rénovation et dans la future réouverture de ce musée ? Max Aubrin, président du musée.
Le premier défi, je pense que c'était convaincre que les habitudes sont parfois mauvaises conseillères. Parce que effectivement, dans cette Grande Loge de France, moi le premier d'ailleurs, on avait nos habitudes. Il est bien évident qu'il va falloir un petit peu les changer, parce que il y a un réel chamboulement. Mais ça, c'est dans les têtes. Je pense que l'action finie, tout le monde reconnaîtra que c'était probablement nécessaire. En revanche, Marcella peut dire les difficultés qu'il y avait à occupé. Et d'ailleurs, le grand maître est très particulièrement efficace en relookant la totalité de cet espace.
Ouais, je voudrais compléter en disant que la complexité, c'était aussi de fonder un parcours de musée, vraiment avec cette vision contemporaine, un dialogue avec la société actuelle, mais en respectant en même temps la vie initiatique du bâtiment. Parce qu'il y a quand même un usage particulier. Il y a quand même des codes particuliers, mais les grands défis pour les équipes, ça a été de faire une réflexion très, on va dire, focalisée sur cette double dimension des espaces, en gardant bien sûr toute la noblesse, l'histoire du bâtiment, en même temps avec cette nouvelle présentation des collections emblématiques.
Et ça sera aussi, je pense, l'occasion de raconter un peu l'histoire de ce lieu, de l'hôtel de la Grande Loge de France, qui n'a pas toujours été l'hôtel de la Grande Loge de France. Peut-être juste en quelques mots, parce que je crois que vous l'évoquerez aussi dans le parcours de visite du musée.
Oui, bien,
Max Aubrin.
C'est d'abord un bâtiment religieux, avec la volonté d'y réunir un ordre. C'est ça qui est intéressant, parce que ça nous touche quand même un tout petit peu. C'est-à-dire que ce n'est pas les séculiers, c'est les réguliers qui étaient dans ce bâtiment. Donc des personnes qui obéissaient à une règle, un petit peu comme les francs-maçons, il faut bien le dire. Mais après, ça s'est un peu lâché, et il y a eu un cinéma, il me semble qu'il y a eu également un café ou quelque chose comme ça.
Donc,
un dancing, oui. Ouais. Donc, quand la Grande Loge a racheté le bâtiment, il est bien évident qu'on allait y retrouver une certaine sérénité, mais évidemment, ça a été transformé radicalement. Et le mot radical n'est pas choisi au hasard.
Et on y retrouvera maintenant un très beau musée. Alors je crois que vous avez aussi collaboré avec d'autres institutions culturelles ou maçonniques pour enrichir ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Je pense notamment à l'école de Condé, je crois.
Alors, on travaille avec l'école de Condé depuis un certain nombre d'années. Faut dire grâce à Marcella. Et finalement, moi je me suis un petit peu inscrit dans cette mouvance, puisque l'école de Condé nous a demandé d'accueillir des stagiaires et même d'en présider les examens. Donc c'est ce que nous avons fait, Marcella peut en parler d'autant plus qu'aujourd'hui on accueille une partie des élèves et quelques maîtres ou maîtresses qui ont été quasiment formés en étant stagiaires à la Grande Loge de France.
Marcella Louvel.
Tout à fait. Ça fait plus de 600 qu'on travaille en partenariat avec l'école de Condé, surtout l'école de restauration et de conservation préventive. On a fait des audits en conservation préventive. On a fait aussi beaucoup de collaborations vis-à-vis de la restauration. Donc ça fait partie aussi de la politique de notre direction et de remettre à la Grande Loge de France, de créer ce type d'échange, de synergie aussi avec les écoles. C'est important pour nous aussi parce qu'on a quand même des projets vis-à-vis de la labellisation du musée. Donc on va peut-être reparler après. Mais je pense que l'intérêt pour nous, c'est vraiment nous approcher et faire le mieux possible pour créer toute la protection en fait de la collection dans l'essence et dans les cadres du ministère de la Culture et du cours du patrimoine.
Alors, ce musée va s'adresser à tous. Comment souhaitez-vous attirer un public le plus large, je dirais au-delà des passionnés de franc-maçonnerie et même des frères de la Grande Loge de France, Max Aubrin ?
Alors, il est évidemment fait pour tous les francs-maçons et les francs-maçonnes qui ont envie de voir, disons, se créer une dynamique. Et nous avons aussi l'intention de créer des visites de classe, patrimoine, et également de créer des petits documents pour des classes maternelles, des classes primaires et des classes de lycée.
Marcella Louvel, vous voulez peut-être préciser?
Oui, en fait, nous, on est en train aussi de préparer avec les équipes des visites guidées, thématiques. Par exemple, une visite dédiée à l'histoire du bâtiment qui est vraiment très riche et qui est pour chaque édition des Journées du patrimoine, par exemple en France, on a énormément de publics très intéressés pour connaître ces bâtiments historiques. Et on voudrait aussi préparer des visites pour les enfants très didactiques, avec un langage bien sûr adapté. Et proposer aussi des audioguides, par exemple, numériques, disponibles en différentes langues, français, anglais, espagnol.
Merci beaucoup Marcella Louvel et Max Aubrin. Je rappelle donc l'ouverture du nouveau musée de la Grande Loge de France et son inauguration le 27 mars prochain. Vous pourrez retrouver prochainement tous les détails pratiques, les horaires et les conditions de visite sur le site gldf.org. Pour conclure, vous le savez, nous évoquons à chaque émission une loge de la Grande Loge de France par son nom, qui n'est pas choisi au hasard et qui dit même beaucoup des frères, de l'histoire de notre obédience et même de l'histoire en général. Aujourd'hui, nous souhaitions rendre hommage à la loge Clio. Après tout, un musée, et nous venons d'évoquer le nouveau musée de la Grande Loge, c'est par définition un sanctuaire consacré aux muses, et Clio est la plus historique d'entre elles. Clio, la gardienne du temps, qui trace sur le parchemin du temps les récits des peuples. Chaque génération, portée par le souffle de la tradition, hérite des savoirs et des leçons du passé, comme une lumière que l'on passe de main en main. L'histoire n'est pas un simple souvenir figé et lointain, elle est une boussole pour l'avenir. Les sagesses ancestrales se transmettent dans les récits des anciens et dans les gestes répétés. Clio nous rappelle que nul ne se construit sans racines, que comprendre hier, c'est éclairer demain, et que transmettre, c'est prolonger la mémoire du monde. Alors rendons hommage à la loge Clio et avec elle, à la muse. C'était les divers aspects de la pensée contemporaine de la Grande Loge de France, une émission préparée et présentée par Clément Ledoux. Aujourd'hui à la technique, Jean-Guilain Meige, à la réalisation, Jean-Christophe Francis, et à la préparation, Claire Poinsignon. Très bon dimanche à tous.